RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, l'herbe suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et les États-Unis renforcent la coopération maritime. Le café indonésien cible le marché australien. La diplomatie humanitaire et la contribution indonésienne à la paix mondiale. Principale destination touristique de l'Indonésie est promue au Vietnam. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche a interdit la capture de requins et les raies manta. Le gouvernement réserve les importations de semences en provenance de Chine. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie et les États-Unis continuent de renforcer la coopération maritime, notamment dans le domaine de la mer et le détroit maritime, entre autres par le deuxième dialogue sur les droits de la mer et de la politique maritime entre l'Indonésie et les États-Unis qui a eu lieu du 28 au 29 mars 2018. Dans une déclaration écrite jeudi, l'adjoint du ministère coordinateur de la souveraineté maritime, Arif Hafaz Ugroseno, a déclaré que le but de la réunion, afin que les deux pays puissent comprendre leurs politiques respectives, notamment en matière de droits maritimes et de conventions maritimes. Selon Hafaz Ugroseno, le renforcement de la coopération maritime entre les deux pays est marqué par la signature d'un protocole d'accord entre l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie et la garde côtière américaine. Les États-Unis invitent l'Indonésie à faire partie du comité directeur du Safe Ocean Network. Les États-Unis soutiennent également l'Indonésie pour accueillir la conférence sur les déchets marins du sommet de la CIE de l'Est. Outre le domaine de la souveraineté maritime de deux pays, le dialogue a discuté également la maintenance du site de croiseur USS Houston qui a coulé dans la baie de Banten pendant la Seconde Guerre mondiale. Le café indonésien s'intéresse aux opportunités du marché australien à travers l'exposition de Melbourne International Coffee Exhibition 2018 à Melbourne, l'Australie. Récemment, le directeur du Centre indonésien de promotion du commerce de Sydney, Agung Hari Setiawan, a déclaré récemment que le café indonésien avait réussi à enregistrer une transaction d'une valeur de 500 000 dollars américains obtenue par les deux sociétés nationales de café affiché à la pavillon indonésien. Le Centre de promotion du commerce indonésien à Sydney a régulièrement participé à l'exposition parce que le café est l'un des produits excellents de l'Indonésie qui a un potentiel de marché assez important en Australie. En 2017, la valeur des exportations indonésiennes de café vers l'Australie a atteint 23,64 millions de dollars américains, soit plus que l'acquisition de 2016 qui a atteint à 17,36 millions de dollars américains. Le gouvernement indonésien fait une diplomatie humanitaire en tant que forme de la contribution de l'Indonésie à la paix mondiale. Dans sa conférence de presse, le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Febrian Rudiard, a déclaré que la diplomatie humanitaire de l'Indonésie était l'une des priorités de la politique étrangère de l'Indonésie. Cela a été dit à l'ouverture de la socialisation sur la diplomatie humanitaire indonésienne à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université Pajajaran Jatinangor, Java West. Selon Febrian, outre la mise en œuvre du mandat constitutionnel, la diplomatie humanitaire est aussi l'instrument de la politique étrangère indonésienne pour obtenir le soutien et le leadership de l'Indonésie aux efforts mondiaux pour gérer et prévenir la crise humanitaire afin de réaliser la paix mondiale. Le rôle actif de l'Indonésie et sa contribution aux efforts pour surmonter et résoudre la crise humanitaire qui touche le peuple palestinien et le peuple de l'État Rakhine, y compris les Rohingyas, sont des manifestations de la diplomatie humanitaire indonésienne. Concernant cette question, le chef du département des relations internationales de l'Université Pajajaran, M. Arifin Sudirman, apprécie le ministère des Affaires étrangères de construire des partenariats avec des universitaires pour renforcer les modalités de la diplomatie humanitaire de l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère du Tourisme et les acteurs du tourisme indonésien font la promotion de la destination touristique de l'Indonésie, Vietnam International Travel Mart 2018, qui a eu lieu du 29 mars jusqu'au 1er avril à Hanoi International Center for Exhibition. Le responsable du marketing de la zone de Indochine du ministère du Tourisme, M. Harry Heriawan, à Hanoi a déclaré récemment que le Vietnam International Travel Mart 2018 était une occasion d'attirer les Vietnamiens de voyager en Indonésie. On souhaite que cette activité puisse atteindre l'objectif des arrivées des touristes étrangers en 2019 qui devrait atteindre 19 millions de personnes. Selon Harry, sept représentants de l'industrie du tourisme de Yogyakarta et Bali, qui se composent d'agents de voyage et des hôteliers, font la promotion des forfaits touristiques en conformité avec les intérêts des touristes vietnamiens. Le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Mme Susi Pujasuti, coordonnera immédiatement avec le gouvernement local dans toute l'Indonésie pour transmettre l'interdiction de la capture de requins et des raies manta. Cela est fait afin de préserver les deux biotes marines que son écosystème presque mis en danger il y a plusieurs années. Cela a été déclaré par Mme Susi Pujasuti lors de l'ouverture du deuxième symposium national sur le requin et les raies à Jakarta récemment. Selon la ministre Susi, l'existence des deux espèces de poissons est un marqueur que l'écosystème marin dans une région en bon état. L'Indonésie, depuis plusieurs années, avait diminué les populations de requins et de raies manta en conjonction avec une politique permettant l'entrée des navires de pêche étrangères dans les eaux de l'Indonésie dans les années 2000. Dans un proche avenir, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, en collaboration avec les parties liées, recueillera les données des populations requins et de raies manta. On fera également l'action comme une campagne au public de participer à la protection de requins et raies manta dans l'océan Indonésie. Le président du Parlement, Bambang Susatyo, a demandé au gouvernement de contrôler strictement l'importation de semences de plantes de la République populaire de Chine en Indonésie. Les graines de plantes chinoises sont suspectées de contenir des bactéries et des virus nocifs. Bambang Susatyo, à travers sa déclaration écrite à Jakarta, mentionne récemment « Cela devient une partie potentielle de la guerre par procuration ». C'est ce qu'a déclaré Bambang Susatyo répondant à l'autorité de l'aéroport Ngurah Rai Bali, qui a récemment découvert l'existence de semences de légumes chinois sans document. Il n'y a pas de permis d'importation au SIP du ministère de l'Agriculture et du certificat phytosanitaire de Chine qui accompagne les graines. Selon M. Bambang, le nombre de graines importées contenant des virus et des drogues en provenance de Chine pourrait faire partie de la stratégie de guerre par procuration, de sorte que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de quarantaine et de l'Agence nationale de renseignement, pourrait renforcer les contrôles. Il a également demandé le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Pour promouvoir l'investissement, le gouvernement rationalise la réglementation ». Lors de la croissance économique mondiale actuelle qui est moins encourageante, l'Indonésie tente d'améliorer l'économie en éliminant les obstacles qui font augmenter la croissance économique antérieure. L'un des efforts du gouvernement est de rationaliser les réglementations qui tendent à entraver les investissements nationaux et étrangers au niveau central et régional. Cet effort vise à développer et améliorer la croissance économique dans le pays. Lors de la réunion de travail du gouvernement sur l'accélération de la mise en œuvre des affaires dans certaines régions à J-Expo Kemayoran à Jakarta, assisté du vice-président Yusuf Kalla, des ministres et des régions ou des maires et des présidents des DPRD en Indonésie, le président Joko Widodo a demandé à chaque ministre de rationaliser au moins 100 règlements dans le but d'améliorer le climat de l'investissement national. En outre, le président a également demandé aux chefs régionaux pour chaque mois d'avoir le courage de faire des réformes majeures afin de faciliter le climat des affaires, le climat d'investissement avec des systèmes en ligne et d'éviter de nombreux obstacles qui imposent le monde des affaires ou imposent les gens. Plus tôt, le ministre coordinateur pour l'économie, Darmin Nasution, a déclaré que le gouvernement avait du mal à supprimer ou à simplifier les réglementations en raison des nombreuses normes différentes dans chaque ministère ou dans des institutions connexes. En outre, selon le ministre Darmin Nasution, les exigences de suppression devraient également se référer à la réglementation existante dans la région pour éviter le chevauchement et au lieu de devenir un fardeau dans le pays, en particulier pour la politique d'exportation d'importation. Par conséquent, la partie prenante centrale et régionale dans la mise en œuvre de la politique rationalisée devrait communiquer et bien se coordonner. Le président Joko Widodo a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie dispose encore de 42 000 règlements qui pourraient entraver le monde des affaires et rendre le gouvernement incapable d'agir rapidement. Tous ces éléments doivent être traités immédiatement. Les règlements sont au niveau central et régional. En voyant un grand nombre de règlements qui tendent à entraver l'investissement, logiquement, si le président Joko Widodo s'inquiète de la croissance économique indonésienne qui a été fixée à 5%, cela ne peut pas être réalisé. En outre, l'état d'esprit et la façon de faire des affaires doivent également changer. Dans l'ère moderne qui est très rapide, le processus en ligne est maintenant un choix meilleur et approprié. En outre, l'importance de rationaliser les règlements inutiles et d'accélérer la politique. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 30 mars. Le 30 mars 1950, le film national est né. La conférence de travail du Conseil national de film avec l'Organisation de film d'Indonésie en 1962 a fixé le 30 mars comme journée nationale du film. Le film national est né le 30 mars 1950, le premier jour de tournage pour le film « Sang et prière » ou « Longue marche de Siliwangi » réalisé par Usmar Ismail. Le film est classé comme premier film local caractérisé indonésien et dirigé par l'indigène indonésien et produit par la compagnie indonésienne. La compagnie qui l'a produit a été nommée l'entreprise des films nationaux d'Indonésie Perfini, qui a également été fondée par le directeur Usmar Ismail. Le 30 mars 1981, la tentative d'assassinat de Ronald Reagan. Le 30 mars 1981, le président américain Ronald Reagan a été abattu par John Hinckley Jr. Il a été abattu devant l'hôtel Hilton, Washington DC, après avoir assisté à une réunion de travailleurs. Alors qu'il se dirigeait vers sa limousine, Hinckley, qui se tenait entre le groupe de journalistes, a tiré 6 fois sur le président. La balle de Hinckley a frappé Reagan et 3 personnes autour de lui. Le porte-parole de la Maison Blanche, James Brady, a également reçu une balle dans la tête. L'agent des services secrets, Timothy McCarthy, a été abattu à ses côtés et la police du district de Columbia, Thomas Delahaney, a reçu une balle dans le cou. Hinckley a été immédiatement arrêté sur place, alors que Reagan se précipita à l'hôpital avec sa limousine. Reagan a été abattu dans le poumon gauche. À ce moment-là, Reagan continuait à marcher vers l'hôpital. L'opération directe est faite sur place et dure 2 heures. Le jour suivant, il a travaillé dans le lit d'hôpital. Le 11 avril, il est retourné à la Maison Blanche. Cette tentative d'assassinat l'a rendu plus populaire. Cet incident a fait apprendre aux Américains à maîtriser les armes. La loi Brady Bill est née pour commémorer le nombre de morts dans une attaque ensemble avec le président. Hinckley a été libéré en juin 1982 pour être fou. Le 30 mars 1983, la dévaluation en Indonésie. La dévaluation est la diminution de la valeur de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. Si cela se produit, le gouvernement intervient généralement pour maintenir la monnaie nationale stable. La dévaluation fait également référence à la politique du gouvernement. Bien que le président Suharto ne parle jamais de dévaluation, mais tout au long de son règne, il y a eu 4 dévaluations, à savoir le 21 août 1971, le 15 novembre 1978, le 30 mars 1983 et le 12 septembre 1986. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Thank you.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, l'Indonésie s'inquiète que les performances commerciales seront perturbées dues à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'Indonésie risque de devenir un marché de transition pour les produits d'exportation de deux pays impliqués dans des guerres commerciales, à savoir les États-Unis et la Chine. Le vice-président de la République d'Indonésie, Yusuf Kalla, à Jakarta mardi 27 mars, comme publié par Antara, craint que les machettes commerciales entre les États-Unis et la Chine aillent perturber les performances du commerce indonésien. Yusuf Kalla considère que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aura un impact large et influe sur l'Indonésie si elle n'est pas résolue dès le début. Yusuf Kalla a déclaré que toutes les guerres commerciales, notamment entre les grands pays tels que l'Amérique et la Chine, auraient un impact important. Yusuf Kalla a déclaré que le pays avec une économie forte aura un impact majeur sur les autres pays. L'Indonésie aura des difficultés à exporter et des pays hostiles se tourneront vers d'autres pays, notamment l'Indonésie. L'impact conduira à l'affaiblissement de la résilience industrielle nationale à raison des politiques tarifaires émises par les États-Unis pour faire pression sur la Chine pour adhérer aux pratiques commerciales. Les inquiétudes concernant les guerres commerciales entre l'Amérique et la Chine ont émergé dans de nombreux pays après que le président américain Donald Trump ait imposé des droits de douane sur les produits en acier importés de 25% et les produits en aluminium de 10%. Yusuf Kalla espère que les tensions entre les deux pays dans le commerce commercial pourront être résolues au niveau de l'Organisation internationale du commerce, OMC. Relatif à l'impact de la mise en œuvre de l'augmentation des tarifs d'importation en Amérique, Yusuf Kalla a déclaré que le gouvernement de l'Indonésie est prêt à riposter en appliquant la même chose pour les produits d'exportation vers l'Amérique. Yusuf Kalla a ajouté qu'actuellement, le principal produit d'exportation de l'Indonésie vers l'Amérique est l'huile de palme brute, CPO, alors que les importations indonésiennes en provenance d'Amérique incluent le soja et le blé. Cher ami, c'était mon Indonésie.
L'Indonésie et les États-Unis continuent de renforcer la coopération maritime, notamment dans le domaine de la mer et le détroit maritime, entre autres par le deuxième dialogue sur les droits de la mer et de la politique maritime entre l'Indonésie et les États-Unis qui a eu lieu du 28 au 29 mars 2018. Dans une déclaration écrite jeudi, l'adjoint du ministère coordinateur de la souveraineté maritime, Arif Hafaz Ugroseno, a déclaré que le but de la réunion afin que les deux pays puissent comprendre leurs politiques respectives, notamment en matière de droits maritimes et de conventions maritimes. Selon Hafaz Ugroseno, le renforcement de la coopération maritime entre les deux pays est marqué par la signature d'un protocole d'accord entre l'Agence de sécurité maritime de la République d'Indonésie et la garde côtière américaine. Les États-Unis invitent l'Indonésie à faire partie du comité directeur du Safe Ocean Network. Les États-Unis soutiennent également l'Indonésie pour accueillir la conférence sur les déchets marins du sommet de la CIE de l'Est. Outre le domaine de la souveraineté maritime de deux pays, le dialogue a discuté également la maintenance du site de croiseur USS Houston qui a coulé dans la baie de Banten pendant la Seconde Guerre mondiale. Le café indonésien s'intéresse aux opportunités de marché australien à travers l'exposition de Melbourne International Coffee Exhibition 2018 à Melbourne, l'Australie. Récemment, le directeur du Centre indonésien de promotion du commerce de Sydney, Agung Hari Setiawan, a déclaré récemment que le café indonésien avait réussi à enregistrer une transaction d'une valeur de 500 000 dollars américains obtenue par les deux sociétés nationales de café affichées à la pavillon indonésien. Le Centre de promotion du commerce indonésien à Sydney a régulièrement participé à l'exposition parce que le café est l'un des produits excellents de l'Indonésie qui a un potentiel de marché assez important en Australie. En 2017, la valeur des exportations indonésiennes de café vers l'Australie a atteint 23,64 millions de dollars américains, soit plus que l'acquisition de 2016 qui a atteint à 17,36 millions de dollars américains. Le gouvernement indonésien fait une diplomatie humanitaire en tant que forme de la contribution de l'Indonésie à la paix mondiale. Dans sa conférence de presse, le directeur général de la coopération multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Febrian Rudiard, a déclaré que la diplomatie humanitaire de l'Indonésie était l'une des priorités de la politique étrangère de l'Indonésie. Cela a été dit à l'ouverture de la socialisation sur la diplomatie humanitaire indonésienne à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université Pajajaran Jatinangor, Java West. Selon Febrian, outre la mise en œuvre du mandat constitutionnel, la diplomatie humanitaire est aussi l'instrument de la politique étrangère indonésienne pour obtenir le soutien et le leadership de l'Indonésie aux efforts mondiaux pour gérer et prévenir la crise humanitaire afin de réaliser la paix mondiale. Le rôle actif de l'Indonésie et sa contribution aux efforts pour surmonter et résoudre la crise humanitaire qui touche le peuple palestinien et le peuple de l'État Rakhine, y compris les Rohingyas, sont des manifestations de la diplomatie humanitaire indonésienne. Concernant cette question, le chef du département des relations internationales de l'Université Pajajaran, M. Arifin Sudirman, apprécie le ministère des Affaires étrangères de construire des partenariats avec des universitaires pour renforcer les modalités de la diplomatie humanitaire de l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère du Tourisme et les acteurs du tourisme indonésien font la promotion de la destination touristique de l'Indonésie, Vietnam International Travel Mart 2018, qui a eu lieu du 29 mars jusqu'au 1er avril à Hanoi International Center for Exhibition. Le responsable du marketing de la zone de Indochine du ministère du Tourisme, M. Harry Heriawan, à Hanoi a déclaré récemment que le Vietnam International Travel Mart 2018 était une occasion d'attirer les Vietnamiens de voyager en Indonésie. On souhaite que cette activité puisse atteindre l'objectif des arrivées des touristes étrangers en 2019 qui devrait atteindre 19 millions de personnes. Selon Harry, sept représentants de l'industrie du tourisme de Yogyakarta et Bali, qui se composent d'agents de voyage et des hôteliers, font la promotion des forfaits touristiques en conformité avec les intérêts des touristes vietnamiens. La ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Madame Susi Pujasuti, coordonnera immédiatement avec le gouvernement local dans toute l'Indonésie pour transmettre l'interdiction de la capture de requins et des raies mantas. Cela est fait afin de préserver les deux biotes marins que son écosystème presque mis en danger il y a plusieurs années. Cela a été déclaré par Madame Susi Pujasuti lors de l'ouverture du deuxième symposium national sur le requin et les raies à Jakarta récemment. Selon le ministre Soucy, l'existence des deux espèces de poissons est un marqueur que l'écosystème marin dans une région en bon état. L'Indonésie, depuis plusieurs années, avait diminué les populations de requins et de raie-manta en conjonction avec une politique permettant l'entrée des navires de pêche étrangères dans les eaux de l'Indonésie dans les années 2000. Dans un proche avenir, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, en collaboration avec les parties liées, recueillera les données des populations requins et de raie-manta. On fera également l'action comme une campagne au public de participer à la protection de requins et raie-manta dans l'océan Indonésie. Le président du Parlement, Bambang Susatyo, a demandé au gouvernement de contrôler strictement l'importation de semences de plantes de la République populaire de Chine en Indonésie. Les graines de plantes chinoises sont suspectées de contenir des bactéries et des virus nocifs. Bambang Susatyo, à travers sa déclaration écrite à Jakarta, mentionne récemment « Cela devient une partie potentielle de la guerre par procuration ». C'est ce qu'a déclaré Bambang Susatyo répondant à l'autorité de l'aéroport Ngurah Rai Bali, qui a récemment découvert l'existence de semences de légumes chinois sans document. Il n'y a pas de permis d'importation au SIP du ministère de l'Agriculture et du certificat phytosanitaire de Chine qui accompagne les graines. Selon M. Bambang, le nombre de graines importées contenant de virus et de drogue en provenance de Chine pourrait faire partie de la stratégie de guerre par procuration, de sorte que le gouvernement, par l'intermédiaire de l'Agence de quarantaine et de l'Agence nationale de renseignement, pourrait renforcer les contrôles. Il a également demandé le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCH.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec Le Magazine Culturel en produisant la cérémonie Nyadar de la communauté Sumenep, Madura. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. L'île Madura, qui est située dans l'est de l'île Java, a quatre districts, Bangkalan, Sampang, Pamekasan et Sumenep. Sumenep est une région riche en art traditionnel. La diversité de la région et les diverses sources de subsistance de ses habitants ont donné naissance à diverses formes d'art uniques. Dans la communauté agricole, il y a l'art kerapan sapi et dans la communauté de Salash, dans la région Pinggir Papas, il y a la cérémonie traditionnelle Nyadar. Nyadar est une cérémonie traditionnelle comme une expression de gratitude à Dieu Tout-Puissant pour donner des bénédictions, en particulier le résultat de la récolte de sel, et un sentiment de gratitude envers les ancêtres des résidents de Pinggir Papas, le prince Angga Suto, qui a donné des connaissances méritoires sur les techniques de fabrication du sel. Nyadar a eu lieu dans le village Kebun Dadap West, district Saronggi. Il y a Asta, utom ancestral des résidents Pinggir Papas, à savoir Sheikh Angga Suto, Sheikh Kabesa, Cheikh Doukone et Cheikh Bangsa. Selon l'histoire de Soumenep, le prince Angasuto est connu comme un héros qui a contribué à sauver l'armée balinaise qui a été pressée lors de la guerre perdue contre l'armée de Kraton Soumenep. Dans ce cas, il a donné une garantie au roi Soumenep que l'armée balinaise restant à Pinggir Papas est devenue sa responsabilité. La garantie donnée par le prince d'Angasuto fut acceptée par le roi Soumenep et ceux qui perdirent dans la bataille devant le précurseur de Pinggir Papas. Pour se souvenir de son service, jusqu'à présent, le cimetière du prince Angasuto est devenu le lieu de l'exécution de la cérémonie Nyadar, qui se tient régulièrement trois fois par an, à savoir la première Nyadar au mois juillet, la deuxième en août et la troisième en septembre. Après que les selles montrent les résultats, Angasuto, comme un homme qui n'oublie jamais le bienfaiteur chanceux de chaque saison sèche, fera Nyadar, une sorte d'action de grâce pour la grâce donnée par Dieu. Ensuite, il y a eu la première cérémonie Nyadar. Au fil du temps, le frère cadet d'Angasuto, Kabasa, a également fait le même vœu. Donc il y a eu la deuxième cérémonie de Nyadar. C'est le cas avec la troisième implémentation de Nyadar, qui est les vœux de Dukun. Basé sur la référence du Bureau du tourisme et de la culture de la région Soumenep, Cheikh Doukone est un serviteur d'Angasuto qui vient de Bantan. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur. Présent les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Le 29 mars est désigné comme la journée philatélique de l'Indonésie. Historiquement, le 29 mars 1922, un groupe de philatélistes fonda un club philatélique à Jakarta, Batavia à cette époque, qu'ils appelèrent Postzegel Verzamelaars Club Batavia. Cette association devint le lieu d'un mouvement organisé nationalement qui fut incorporé dans la formation de Nederlandse Indische Vereniging van Postzegel Verzamelaars le 15 août 1940 suite de Postzegel Verzamelaar Club Batavia est basé à Jakarta. Après la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie, le nom de l'association a été changé en Algemene Vereniging voor Philatelisten in Indonesia. En 1953, elle est devenue l'Association des philatélistes indonésiens. En 1965, elle est devenue l'Association des philatélistes d'Indonésie, PPI. Et finalement, en 1985, elle est devenue l'Association des philatélistes indonésiens, PFI. Afin de commémorer la Journée nationale philatélique est d'accueillir les Jeux asiatiques 2018 dans deux grandes villes indonésiennes, Palembang et Jakarta. Post Indonesia a publié un timbre spécial de la série des Jeux asiatiques de 2018. L'événement a été officiellement lancé par le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, le jeudi 15 février 2018. Lors du lancement des timbres de l'édition des Jeux asiatiques de 2018, un sport indonésien typique a été présenté, à savoir le pencak silat. Six combattants vêtus de noir montrent leur dextérité dans les arts martiaux à main nue et l'utilisation d'armes. De plus, il y a 11 des 42 branches de sport présentées sur ce timbre des Jeux asiatiques de 2018. Le directeur de PT Pos Indonesia Regional 4 à Jakarta, Pupung Purnama, a indiqué que 4 types d'objets philatéliques ont été lancés. Pos Indonesia accueille la mini-feuille des Jeux asiatiques de 2018, la couverture du premier jour, le bloc feuillet et l'édition spéciale d'emballage. En ce qui concerne le prix, les timbres de 18 ans de ces Jeux asiatiques 2018 pour les mini-feuilles et 54 000 rupiah par feuille, feuille de souvenir Jakarta et Palembang et 15 000 rupiah par feuille et la couverture du premier jour est vendue 37 000 rupiah. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Cette fois, nous allons vous présenter des chansons en provenance de Bengkulu. Bon, écoutons maintenant la première chanson intitulée Lalan Belek, chantée par Hera Sofian et Karel Simon. Bonne écoute. Oh, Chers amis, voilà l'une des chansons de la région de Bengkulu, intitulée Lalan Belek, chantée par Harold Sofian et Karel Simon. On ne sait pas qui est le créateur de cette chanson régionale légendaire. Lalan Belek, en langue de Bengkulu, signifie Lalan, revenez. Lalan est le surnom de Dewi Nawang Wulan, un ange dans l'histoire de la légende de confiance publique de Bengkulu. Cette chanson garde un message moral profond. Elle nous rappelle de toujours défendre l'honnêteté avant de ne pas causer des ravages à la fin. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de la région de Bengkulu intitulées Ikan Pais. Bonne écoute. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans le programme musical. Et cette fois, nous présentons des chansons en provenance de Bengkulu. Et vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Ikan Pais ». Cette chanson parle du poisson pais, qui est une nourriture typique de Bengkulu. Le goût délicieux de cette nourriture fait que ceux qui la mangent ne peuvent pas oublier la délicatesse. La nourriture typique de Bengkulu est faite à partir de poissons de mer en utilisant beaucoup d'épices ou mélangés avec du tempoyak, transformé à partir de durian et enveloppé dans de feuilles de banane ou de taro, cuit à la vapeur et d'habitude, on le mange avec du riz chaud et des légumes. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées Benai Churi, chantées par Yani. Merci à tous et au revoir. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.